m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir mes 3 voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays, Jean-François Coulon-Désarella, journaliste et écrivain, vous le connaissez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Philippe Charlez, notre expert en énergie qui va être mis à contribution aujourd'hui. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marc, bonsoir chers auditeurs.
Et Franck Herriot, journaliste police-justice, écrivain, qui va lui aussi être mis à contribution. Bonsoir. Mon cher Franck, vous pouvez, chers auditeurs, vous le savez, nous appeler au 01 46 51 00 85. On vous attend au standard où nous envoyez vos courriels à courtoisie@rc.fr. On essaiera de les lire à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus. Au programme ce soir, pas mal de choses. D'abord, notre édito, ce sera... je l'ai oublié, mon édito. C'était quoi ? Si, sur la dissuasion, quand Macron disait que le nucléaire, ça sert à rien. Voilà, nous parlerons ensuite, ce sera le plat de résistance de la guerre iranienne. Est-ce qu'elle va toucher la France et comment ? Nous aurons avec nous le géopolitologue François Costantini, nous appellerons le journaliste iranien Emmanuel Razavi, et puis Philippe Charlez, ici présent, évoquera les conséquences de ce conflit sur les marchés de l'énergie en général et sur notre facture de gaz et de pétrole en particulier. Et puis Xavier Hofer regardera avec nous les implications sur la sécurité en France. 3 semaines après le lynchage de Quentin, ce sera notre deuxième sujet, l'État macroniste cible l'extrême droite. Nous aurons notre traditionnel clin d'œil culture. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Moi, je vous parlerai de ce livre. C'est un livre d'Alexandre Devecchio qui est sorti il y a quelques semaines déjà, mais qui est absolument passionnant aux éditions Fayard. Mais auparavant, traditionnel tour de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine ? C'est évidemment, l'actualité est écrasée par l'Iran, mais il y a quand même d'autres choses. Allez, qu'est-ce qui veut commencer, Jean-François Coulon des Arts ?
Eh ben, moi, ce qui m'a frappé, ce sont des chiffres cette semaine, des chiffres et la ville de Paris. Parce que figurez-vous qu'en 5 ans, la ville de Paris a versé 1,6 milliard d'euros de subventions pour financer chaque année entre 4 200 et 4 500 projets. Si vous voulez, ça fait pratiquement 160 euros par an et par Parisien. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 800 000 associations actives.
800 000.
La mairie en subventionne 3 000 par an. Alors, il y a beaucoup de chiffres, soyez attentifs. Sur ces 3 000 associations, 25 reçoivent la moitié de l'enveloppe allouée par la ville, c'est-à-dire 150 millions d'euros. Les autres, elles se débrouillent. Alors, quelques exemples, si vous voulez. Il y en a une qui s'appelle la Petite Rochette.
Donc là, on est dans les 25.
On est dans 25, elle a touché... En 2024, un peu plus de 500 000 euros, 500 200 euros pour être très précis.
Et c'est quoi la Petite Rochette ?
Ah ben écoutez, sa présidente, en tout cas Delphine Terlizzi, est membre de la majorité de Madame Hidalgo.
Ah
bon. Les Pirots de la Nuit, autre association, 100 000 euros. Son président, Emmanuel Coblence, est lui aussi membre de la majorité municipale. Oh. Conflit d'intérêts.
Le hasard fait bien les choses.
Attendez, il y a pire. 6,5 millions à l'association Aurore. Que fait l'association Aurore ? Elle gère des centres pour migrants et attaque l'État en justice pour les empêcher d'expulser les migrants clandestins. 6,5 millions d'euros.
6,5 millions.
L'argent des Parisiens. 330 000 euros pour une association dont le but est de réduire les déchets ménagers à Katmandou, au Népal. 116 500 euros pour fournir un accès à l'eau potable pérenne dans 10 communes au fin fond du Cambodge. 25 000 euros pour renforcer la gestion durable des déchets et l'égalité de genre en Colombie.
En Colombie.
En Colombie. Et on pourrait continuer comme ça,
c'est concernant.
Indéfiniment. C'est extraordinaire. Allez, on finit avec 4,3 millions d'euros. C'est le budget des relations internationales et d'aide au développement de la ville de Paris. Alors là, il y a une phrase de la Cour de compte qui est intéressante. Elle dit « Il est nécessaire d'évaluer dans quelle mesure cette politique internationale conforte effectivement l'image de Paris à l'étranger et sert bien les intérêts de la capitale et ceux de ses habitants. » C'est la Cour des comptes qui parle.
Ouais, c'est une
bonne
question.
10 milliards de dettes, c'est l'ardoise que nous laisse Madame Hidalgo. Que laisse Madame Hidalgo aux Parisiens. Voilà ce que j'ai retenu cette semaine.
Eh bien écoutez, elle ne vous embauchera pas pour faire sa campagne, en tout cas, ça on en est sûr.
Madame Naffo peut-être vous embauchera pour vérifier ces chiffres.
Ils sont parfaitement exacts.
Voilà. Alors, non, attention, mais vos chiffres, oui.
Bon. Philippe Charlez.
Alors, moi, si je peux, je vais faire un petit saut dans mon pays d'origine, qui est la Belgique.
Ah, la Belgique. Le plat pays.
Alors, dans Belgique, dans le sud du pays, il y a un parti politique, qui est d'ailleurs le principal parti politique du sud, qui s'appelle le Mouvement Réformateur. Donc, c'est un parti politique qui, d'ailleurs, était assez proche du RPR et je vais dire, l'est toujours. Donc, c'est une droite réformatrice, mais qui est devenue un peu plus hard, si j'ose dire, notamment en termes d'immigration, s'inquiétant de l'immigration en Belgique et notamment dans la région bruxelloise, qui est absolument épouvantable. Mmh. Et donc ce parti fait l'objet d'ostratisation par rapport aux, enfin, des antifas. Il y a aussi d'ostracisme, ouais. De la part des antifas belges, parce qu'il y a aussi des antifas en Belgique. Alors notamment, absolument, et notamment son président assez connu qui s'appelle Georges-Louis Boucher, il fait l'objet d'intimidation permanente, il est sous contrôle policier.
Boucher, c'est le RPR belge.
Donc c'est ça. Oui, c'est le président, c'est l'équivalent du Retailleau belge, on va dire. Voilà. Et puis c'est assez proche au point de vue pensé, donc c'est même pas le Rassemblement National. Hein. Ouais. Et donc, notamment, ils ont un think tank assez connu qui s'appelle le Centre Jean Gaulle, et le Centre Jean Gaulle a été interdit à la foire du livre de Bruxelles pour éviter qu'il y ait des troubles parce que les antifas menaçaient de venir saccager
le
stand. Donc voilà, vive la liberté d'expression. Donc on retrouve bien en Belgique la même chose qu'en France.
Non, mais alors
vous nous rappelez que les antifas sont une organisation internationale.
Oui, mais pour compléter ce que dit Philippe,
les mêmes méthodes.
21 News, c'est ce que va vous raconter maintenant Franck Herriot, ce qui s'est passé sur 21 News.
Ce qui s'appelle un manque de concertation en amont. C'est tout simplement.
Non, je voulais répondre,
pour Franck faire Herriot. Plaisir à Philippe, on va rester en Belgique. Oui, effectivement, le média 21 News a été sanctionné et épinglé par le Conseil de déontologie journalistique. Qu'a fait 21 News ? Ils ont publié in extenso le fameux discours de Jill Evans, ce vice-président américain. Vous savez, où ils remettent en cause finalement l'équilibre entre l'Europe, le vieil équilibre entre
discours très critique sur l'Union Européenne.
Discours qu'ont retranscrit tous les médias français, enfin la plupart des médias français.
En tout cas, Boulevard Voltaire.
Là il est reproché donc à 21 News, le Figaro l'a publié aussi, il est reproché à 21 News d'avoir publié donc ce discours au risque de rendre le public hostile au fonctionnement des démocraties européennes ou d'inciter au racisme, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les migrants. Voilà. Donc,
non, mais c'est
un
très...
grand professeur de sociologie belge précise qu'il ne s'agit pas de censure, mais simplement d'éveiller la conscience politique de la population belge, bien évidemment incapable de juger par elle-même
bien sûr.
De ce qui contient. Genre. Évidemment, chez 21 News, c'est la sidération et on estime que c'est au lecteur de se faire un avis à partir du discours original qui est derrière là. Alors, on reproche effectivement les adversaires de 21 News ou de
c'est très intéressant cette affaire parce que c'est une tendance. C'est une tendance partout à l'illibéralisme. Hein, on le reproche beaucoup ça à Viktor Orban, mais enfin, la France n'en est pas exempte. Et on voit bien qu'il y a une tendance à serrer la vis et à interdire et à...
D'autant que je connais
un certain nombre de publications, c'est quand même incroyable.
Je connais 21 News, j'y suis même déjà intervenu, et c'est une chaîne qui est absolument neutre, assez neutre politiquement. C'est un peu, le BFM, l'équivalent de BFM en France, donc c'est une chaîne une chaîne d'information, absolument pas une chaîne d'opinion.
Dans la démarche de 21 News, il y avait simplement une démarche informative. Voilà ce qu'il a dit. C'était un discours historique au sens...
On n'a pas le droit de le donner comme ça, il faut le commenter, c'est ce qu'a dit le contextualiser,
voilà. Et donc le contredire. C'est le fameux cordon sanitaire. Ça veut dire.
Mais la censure est de retour, c'est tout. La censure est de retour. Regardez, la RTBF avait diffusé le discours de Trump en léger différé.
Ah oui, oui, absolument.
Souvenez-vous. Non, la censure est de retour, c'est ce qu'on voudrait aussi faire en France.
C'est quand même assez grave.
C'est ce que certains veulent faire en France aussi. Absolument. On en a déjà parlé sur ce plateau.
Voilà, justement, vous voyez, je ne suis pas très loin. Moi aussi, j'ai ma petite info. Je voulais revenir sur l'ARCOM qui a donc sévi contre CNews. C'est la décision 20-26-91 du 25 février 2026 publiée au journal officiel ce 4 mars, là, 2026, et qui met en demeure la chaîne sur le traitement du drame de Crépol. Parce que le 19 novembre 2023, vous vous souvenez, Thomas Perrotto était tué à coups de couteau dans un bal de ce village de la Drôme. Alors, sur le plateau de CNews, on fait état d'une expédition punitive dans le but de tuer du blanc, parce que vous savez, il y a plusieurs témoins, 5 ou 6 au moins, qui ont dit, entendu ces propos-là de la part de ceux qui étaient venus avec des couteaux. Et donc, les invités évoquent ces témoignages. Eh bien, ça n'a pas plu à l'ARCOM, qui a épinglé, une seule interprétation des faits en cause centré sur la thèse d'un crime raciste. Voilà, c'est dans les motivations de sa décision. Donc, les propos litigieux qui ont été tenus au cours des 15 émissions visées ci-dessus n'ont pas été tempérés ou modérés par les personnes présentes en plateau. C'est exactement le syndrome de la Belgique dont vient de parler Franck Herriot. Donc, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'informer, c'est devenu interdit? De fait, la décision fait mention d'un article de la délibération d'une délibération le 18 avril 2018, lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté. La présentation des différentes thèses en présence doit être assurée en veillant notamment à ce que les parties en cause ou les représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. Non mais c'est hallucinant. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous évoquez quelque chose, il faut faire intervenir toutes les parties en cause. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler d'un drame, d'un meurtre.
C'est le cas sur France Inter notamment. Ça, on peut dire que sur France Inter, il y a vraiment des débats contradictoires.
Ça c'est certain. Non mais ça interdit toute pratique de l'information. Vous qui êtes journaliste, mon cher Jean-François.
Surtout l'ARCOM, l'ARCOM est aux ordres.
On ne peut pas traiter, ça veut dire qu'on ne traite pas un meurtre.
L'ARCOM est aux ordres du pouvoir de toute façon. Je veux dire, à qui vous allez faire croire dans ce pays que c'est la haute autorité de l'audiovisuel, ça s'appelait l'ARCOM, qu'il y en a eu plein, vont nommer eux-mêmes le président de France Télévisions. Tout ça est décidé au château. C'est-à-dire, personne n'est dupe, d'une part. Deuxièmement, moi je suis bien plus inquiet sur les fake news, notamment sur la guerre dont on va parler tout à l'heure, sur l'Iran. Toutes les fake news qui tombent sur les réseaux sociaux, fabriquées avec l'IA, etc., c'est absolument incroyable. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
On va en parler avec François Constantin.
C'est absolument, mais c'est là-dessus. L'ARCOM ferait mieux de s'attaquer à ça, plutôt que d'embêter la pauvre chaîne CNews.
Qui a fait son boulot en commentant à chaud un meurtre sur la base de plusieurs témoignages. Enfin, c'est quand même incroyable. Je veux dire, si on applique ces principes, on ne peut plus traiter ce qu'on appelle des faits divers, qui sont tout sauf des faits divers, qui sont des faits de société, au moment où ils se produisent. Il faut attendre 5 ans que l'affaire soit jugée. À ce moment-là, on lit le jugement du tribunal. C'est la mort du journalisme.
C'est la mort du journalisme. C'est ce qu'ils voudraient. Ça les arrangerait bien.
Ouais. Allez, édito. Dissuasion quand Macron disait que le nucléaire, ça sert à rien.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, plaideront les défenseurs du président Macron. Certes, en l'occurrence, Macron a exécuté en quelques années un tête-à-queue sur la question qui a occasionné le discours de l'île longue et provoqué l'intervention du président à la télévision ce mardi soir, la dissuasion nucléaire. Macron revoit donc à la marge la doctrine nucléaire de la France pour étendre sa protection à l'Europe lâchée par les États-Unis de Trump. Soit, dans ce cadre, la légèreté du jeune Macron éclaire le discours du président Macron d'aujourd'hui. Nous sommes en 2010, lors de la deuxième commission Attali. Objectif, trouver des économies et réduire le déficit. Boulevard Voltaire a joint un témoin, à l'époque membre de cette deuxième commission. Il souhaite rester
anonyme, mais se souvient très bien de cette salle au rez-de-chaussée d'un ministère vide rue Saint-Dominique à Paris, pas très loin du ministère de la Défense, justement. La réunion a lieu plus tôt que d'habitude, vers 18h. Macron est arrivé en retard. Soudain, il indique qu'il souhaite prendre la parole. Il a trouvé des économies. Il suffit, je cite, il suffit d'arrêter la dissuasion nucléaire, car par principe, elle est faite pour qu'on ne s'en serve pas. Fermez les guillemets. La dissuasion nucléaire, ça sert à rien, les Allemands n'en ont pas, poursuit notre président, notre actuel président, qui ne l'était pas encore à l'époque. Selon notre témoin, Macron a à peine fini sa phrase que Jacques Attali le recadre. Tu es encore un peu jeune. Si tu connaissais mieux ton histoire, tu ne dirais pas cela. Sans le nucléaire voulu par De Gaulle, la France ne serait pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Attali volant au secours de la souveraineté française, la scène peut surprendre, mais l'ancien conseiller éclaire lui-même cette conviction, faute de mieux, dans un de ses billets en ligne, un de ses blogs, sur l'irénisme nucléaire. Il l'a écrit le 28 septembre 2009, on peut le trouver, il est toujours en ligne. L'ONU a décidé, nous dit Attali, de rechercher un monde plus sécurisé pour tous et de créer les conditions pour un monde sans armes nucléaires. On pourrait donc penser que nous sommes entrés dans le meilleur des mondes, écrit Attali. Mais voilà, il n'est quand même pas dupe, notre ami Attali. La fin du nucléaire, je cite, c'est illusoire. Voilà ce qu'il écrit, notamment parce que cette arme, le nucléaire, entre les mains des démocraties, reste la meilleure garante de la paix mondiale aussi longtemps que n'existe pas une force de police planétaire efficace et crédible au service d'un véritable gouvernement mondial auquel tout ramène. Voilà, c'est du Attali dans le texte, on comprend mieux. Attali, le pygmalion d'Emmanuel Macron, ne défend pas le nucléaire comme garantie de notre souveraineté. Non, pour lui, c'est un pis-aller en attendant cette force de police planétaire efficace et crédible au service d'un véritable gouvernement mondial, je le cite toujours. Avec Macron, ils sont donc d'accord sur l'objectif. À l'époque, Macron jouait simplement au jeune homme pressé d'en finir avec le nucléaire français. Alors, on a le droit de changer d'avis, certes, mais au fond, Macron a-t-il vraiment changé ou avance-t-il toujours, comme son maître Attali, vers cette police planétaire efficace et crédible au service d'un véritable gouvernement mondial? La question mérite à minima d'être posée. Voilà, vous avez entendu la déclaration de notre ami Emmanuel, les déclarations d'Emmanuel Macron sur la stratégie nucléaire française. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous?
Moi, je ne comprends pas la communication du président. De toute façon, il est très solennel, là, dans une mise en scène avec un de nos sous-marins nucléaires derrière lui, le drapeau, tout ça. Le discours était du...
La mise en scène était parfaite.
La mise en scène était bien, le discours était pas mal, d'ailleurs. Et après, il gâche tout parce qu'il repasse, il fait une déclaration à 20h à la télévision, il n'apporte rien de plus. Je l'ai entendu ce matin répondre à des questions des enfants. Il dit, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Non, mais je veux dire, c'est le professeur, quoi. Il nous traite comme...
Non, l'instituteur.
Oui, l'instituteur. Il nous traite comme des gamins, quoi. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre vers où il veut aller et l'axe de sa communication. Je ne comprends pas. Il mélange tout.
Et je dirais qu'il y a quand même une pointe, une pointe d'européanisme derrière. C'est-à-dire que... Macron reste un fédéraliste européen convaincu et donc son fédéralisme européen pourrait intervenir éventuellement le partage du nucléaire. Il avait même déjà évoqué que le siège au Conseil de sécurité pouvait être partagé avec... Ah, il a quand même dit que la décision finale revenait à la France, mais que la décision d'utiliser le nucléaire ne serait plus uniquement franco-française, mais pourrait être partagée avec d'autres.
Alors,
ce que je vais dire, c'est que j'ai moi-même, je vais faire.
Enfin, il n'a pas été jusqu'au bout. Hein,
c'est vrai.
Il n'a pas été jusqu'au bout. Il a démenti là dans sa déclaration.
J'ai moi-même cru il y a une vingtaine d'années. Alors, dans une police mondiale, je veux dire, faut pas exagérer quand même. Ça devient complètement utopique. Mais disons,
c'est ce que dit Attali.
Oui. Mais bon, là, c'est ce que je veux dire. Là, c'est entre le bisounours et la folie furieuse, si j'ose dire.
Il y avait un film comme ça dans les années 75 qui s'appelait Rollerball. Il y avait un gouvernement mondial. Avec des équipes de football qui étaient très agressives puisqu'ils se tuaient sur... C'est comme ça qu'on tenait les masses. C'était un film terrifiant à l'époque.
Mais là, c'est pas un jeu. C'est un blog du 28 septembre 2009. Hein. Je vous invite à aller le voir.
Ce que je veux dire, on voit même que l'idéal européen auquel j'avoue... peut-être être un seul autour de la table à avoir cru pendant un certain nombre d'années. On voit que ça marche pas. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Du moins, ça ne marche pas tel que ça a été construit. Donc c'est-à-dire que imaginer une Europe fédérale, ça peut pas marcher.
Mais non, personne veut d'une Europe fédérale. Non, mais je sais. À part Ursula et à part Macron.
Allez, on relancera le débat sur l'Europe.
Personne. Non, mais ça répondait un peu à la question. C'est-à-dire sans aller jusqu'à un gouvernement mondial. Macron croit toujours à un gouvernement européen.
Mais il n'y a que lui qui croit.
Allez, tout à l'heure...
Et Ursula.
Nous parlerons de 3 semaines du lynchage de Quentin. 3 semaines après ce lynchage terrible, l'État macroniste cible l'extrême droite. On verra ça tout à l'heure. Mais tout d'abord, la guerre iranienne va-t-elle toucher la France et comment ?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Jean-François Coulon-Désart et Philippe Charlaise qui sont là tous les trois. Nous demanderons tout à l'heure au journaliste d'origine iranienne Emmanuel Razavi si le pouvoir et la population peuvent tenir dans ces conditions, la population iranienne bien sûr. Et puis avec Philippe Charlaise, on évoquera le grand chamboule-tout du marché de l'énergie. Et avec Xavier Hofer, les implications possibles sur la population française. Mais d'abord, on va plonger dans le conflit iranien lui-même. Comment tout cela va-t-il tourner ? Bonsoir Bonsoir François Costantini.
Bonsoir Marc.
Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de Sciences Po Paris, hein, vous avez enseigné à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et vous avez écrit plusieurs ouvrages, Les relations internationales en fiche chez Ellipse et Le Liban, histoire et destin d'une exception aux éditions Libre. J'ai pas eu le temps de le lire complètement, c'est un très gros livre.
400 pages.
Très complet, 400 pages. Les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent parce que vous avez une émission mensuelle sur Radio Courtoisie. Alors, vous suivez évidemment avec attention ce conflit très brutal hein, qui mobilise de nombreux pays autour des États-Unis, d'Israël et de l'Iran. Vous êtes d'ailleurs intervenu plusieurs fois à ce sujet à l'antenne de CNews. Question, on entend dire que cette guerre qui se situe très loin de la France est existentielle, civilisationnelle, qu'elle nous concerne tous. Est-ce que c'est votre avis et si oui, pourquoi est-ce que ce conflit nous concerne, François Costantini ?
Alors, sans être existentielle, civilisationnelle, elle l'est par contre pour certaines personnes. Elle l'est au premier plan pour Israël. C'est certain qu'Israël a peut-être cette fois-ci l'opportunité d'éliminer surtout le danger direct, le Hezbollah, et le danger en toile de fond, mais plus important, qui est l'Iran. Et on sent véritablement, en tout cas du côté du gouvernement israélien, les choses sont claires. Ils font la guerre aux côtés des Américains pour en finir avec le Hezbollah et autant que possible avec le régime iranien. Les objectifs ne sont pas les mêmes du côté des États-Unis. On voit Donald Trump hésiter. A-t-il lui-même un projet ? J'en doute personnellement.
Un projet pour l'Iran, vous voulez dire ?
Pour l'Iran. Ouais. Va-t-on vers ce qu'on appelle un regime change ? Alors, je mettrai la pièce dans le cochon. Hein. Un changement
de
régime.
Ah oui, là, régime. Vos auditeurs vont pas vous rater.
C'est un changement pur et simple de régime. Ou une situation à la Venezuela, à la Maduro. C'est-à-dire qu'on décapite le régime et puis on s'arrange avec les anciens portefeuilles du régime, les seconds couteaux, notamment la présence actuelle par intérim. Et puis on essaye au moins de neutraliser le régime. Le Venezuela, on verra comment les choses vont évoluer. Est-ce que les États-Unis vont exiger un chemin démocratique ? Ce n'est pas sûr. Alors, pour Israël, oui, la question existentielle, elle est aussi également pour le Liban. Il faut rappeler quand même que le Liban a connu quand même 15 années de guerre qui sont soldées par une mise sous tutelle avec l'accord unanime, international unanime, de la Syrie, c'est-à-dire la volonté américaine, saoudienne, de donner le Liban à la Syrie.
Pas trop les Français quand même.
Alors les Français, disons que c'était François Mitterrand, il a suivi à l'époque. La seule chose qu'il a fait, c'était d'accorder l'exil au général Aoun, qui a été mis en sous tutelle, qui ne pouvait pratiquement pas parler, encore moins du temps de Chirac.
Parce que les Syriens nous avaient quand même tué un ambassadeur.
Oui, mais vous savez, qui était Louis de Lamar. Ouais. Mais vous savez que malheureusement, tout ça a été passé par pertes et profits. Ouais. Et François Mitterrand avait parlé en 1990, puisque vous évoquez cette question, en octobre 90, c'est la chute d'Aoun, de la tragique solution qui vient de s'imposer. Voilà. En disant finalement la France était seule, elle n'était pas plus engagée là-dessus. D'ailleurs, Mitterrand n'avait pas pris position pour une partie comme pour l'autre. La France suivait la Syrie.
Je crois qu'il avait même refusé à ce moment-là une opération Homo parce qu'on avait, nos services avaient identifié les tueurs de Lamar, de notre
bien
ambassadeur,
sûr. Bah, bien sûr.
Et que je crois que nos services sont passés outre le veto mais présidentiel.
Il y a même eu pire que ça, c'est-à-dire à la suite de l'attentat tragique du Drakkar, dont on pourra reparler parce qu'il est lié quand même au régime, au Jérémyen, il y avait eu un faux bombardement où le secrétaire général du Quai d'Orsay, Francis Goutman, futur président de Gaz de France, avait averti auparavant les membres du Hezbollah, et c'était un malheureux berger qui avait été tué. Donc on l'était dans... à la fois dans le, gros les, dans le grotesque et le croquignolesque, peut-on dire. Alors, le Liban a connu 15 ans de guerre, 15 ans de tutelle syrienne, et depuis 20 ans, il était quand même, avec le retrait syrien, sous la tutelle stratégique du Hezbollah. Surtout avec la dernière présence de la présence Aoun, qui a été tout à fait catastrophique, puisqu'on a donné... Il faut savoir que le Hezbollah n'est pas seulement une milice, mais il est un parasite véritablement incrusté au Liban, puisqu'ils ont, par exemple...
Tient le sud-Liban.
Il tient le sud, ouais. pas seulement le sud-Liban, mais
le
par,
sud
exemple,
de Beyrouth aussi.
Par exemple, il a des éléments dans l'armée libanaise. Par exemple, le poste de directeur de la Sûreté Générale du Liban, sur le modèle de l'ancienne, si vous connaissez bien ça comme spécialiste police, hein, quand on avait la Sûreté en France, la Sûreté, c'était à la fois les entrées et les sorties, les douanes, la surveillance des ennemis, la sûreté générale est dans les mains du Hezbollah. Le Hezbollah savait jusqu'à l'époque récente qui entrait et sortait par l'aéroport. L'explosion du port de Beyrouth, par exemple, on sait très bien que le Hezbollah a des responsabilités particulièrement à la criante accablante dessus. Oui, pour le Liban, c'est une question essentielle, c'est savoir si le Liban va pouvoir en effet désincruster le Hezbollah. Alors là, pour la première fois, le gouvernement officiel, disons, le président de la République, Joseph Aoun, et plus encore le Premier ministre Naïf Salam, qui est un sunnite, qui est plus hostile, lui, par nature, encore au Hezbollah. Joseph Aoun avait été nommé par commandant en chef de l'armée avec, disons, un accord tacite du Hezbollah, il ne faut pas l'oublier. Lui a décidé de prendre position, d'une part, d'interdire les activités des passes d'Aran. C'est la première fois depuis 1984 hein, que les passes d'Aran sont implantées au Liban. De soumettre tout Iranien à un visa, alors que les Iraniens pouvaient venir librement.
Ça, c'est des décisions qui datent de quoi, il y a quelques années.
De deux jours. Du gouvernement libanais. Et enfin, d'interdire officiellement toute activité. Alors, on sait qu'il y a par exemple une trentaine de membres du Hezbollah qui ont été capturés et emprisonnés par l'armée libanaise. Le problème, c'est que l'armée libanaise n'a pas les moyens, ni politiques, matériels notamment, de véritablement s'en prendre au Hezbollah. C'est le pot de terre contre le pot de fer.
Oui, mais pourquoi ? Parce que après la guerre, toutes les factions ont rendu les armes à la demande de l'État libanais, sauf le Hezbollah, et on a laissé faire. Pourquoi ?
Bah, pour plus, c'était l'accord de Taïf, souvenons-nous, l'accord de Taïf, qui est un accord en fait saoudo-américain et syrien, qui légalise la présence syrienne au Liban, alors qu'elle n'avait aucune notamment justification. Les armes lourdes sont remises à l'armée libanaise, les ministres, c'est-à-dire les milices chrétiennes, les forces libanaises, le PSP de Walid Jumblatt et le mouvement Amal de chiites de Naïb Erib. Le Hezbollah, pourquoi ? Parce que c'est la Syrie qui tient à garder cette carte, notamment à l'époque, contre Israël, qui a la tutelle. C'est-à-dire que volontairement, non seulement le Hezbollah n'a pas été désarmé, mais il a été surarmé. Le Hezbollah, c'était en quelque sorte l'enfant illégitime que Syriens et Iraniens ont fait au Liban, avec, il faut quand même le dire, des responsabilités israéliennes. Pourquoi ? Parce que la Syrie, parce qu'Israël, en 1990, tacitement, était d'accord pour la mainmise syrienne sur le Liban, comme contrepartie au Golan, etc. Vous savez, c'est le fameux leitmotiv de Kissinger, « If you want peace, give Lebanon to Syria », si vous voulez la paix, donnez le Liban à la Syrie. Et Israël a laissé faire. Tant et si bien que le Hezbollah a grossi, et surtout avec la sortie, notamment, de la Syrie du Liban en 2005, sauf sortie officielle mais pas officieuse, puisqu'on estime que la Syrie a laissé sur place 30 à 40 000 agents des services de renseignement qui est très présent partout. C'est le Hezbollah qui a tenu les cartes de la Syrie, qui a tellement grossi, comme me l'a dit un proche de Bachar al-Assad une fois, que finalement c'est pas le Hezbollah qui a tenu la carte de la Syrie, c'est le Hezbollah qui véritablement est devenu en est arrivé à contrôler même la Syrie, y compris en Syrie même, dans les caractéristiques de la guerre. Donc le Hezbollah, c'était une carte. On ne l'a pas désarmé.
Ses liens avec l'Iran sont extrêmement étroits. Ils sont financés par l'Iran.
Ils sont consubstantiels, puisqu'il faut le rappeler, même s'il a disparu dans une frappe, le Hezbollah ne reconnaît qu'un seul chef, le guide suprême de la révolution iranienne, et personne d'autre. Mal président, les passes d'Aran, il est lié directement.
Et ça, c'est officiel, si on demande aux autorités.
Il le reconnaît, le Hezbollah s'est placé directement sous la tutelle du guide suprême de la révolution iranienne. il est en fait une branche iranienne. C'est un parti qui a été fondé en 1984 par des Pasdaran, notamment, qui sont venus au Liban, dépêchés spécifiquement, et qui ont créé le Hezbollah. Alors, sur le plan pratique, ils ont suscité notamment des scissions avec les services de renseignement syriens, notamment du mouvement Amal. On a créé Amal islamique et on s'est connecté dessus, mais c'est un mouvement proprement iranien par sa logistique. Le Hezbollah recevait à peu près 2 milliards de dollars par an de l'Iran, pour l'armement, et pas seulement pour ça, parce que le Hezbollah, ça forme un tout. C'est pas seulement la milice, c'est un parti politique, un bloc parlementaire au Liban, mais c'était véritablement un organisme social.
C'est ça, d'assistance sociale, c'est ce que je veux dire.
C'est des dispensaires, des écoles, des magasins, et puis des milliers d'emplois fictifs qui sont distribués aux familles, etc. C'est tout ça, le Hezbollah.
La possibilité maintenant, les militaires du Hezbollah, est-ce qu'elle reste, elle est à combien? Mettons qu'elle était à 100% avant tous ces événements, on est à combien là à peu près maintenant?
Et quel est son pouvoir de nuisance dans le même sens dans ce conflit?
Voilà, disons
qu'elle
a pris des coups
mobilisée par l'Iran.
Elle a pris des coups surtout en septembre 2024 avec d'une part l'élimination d'Hassan Nasrallah, qui était un chef historique, charismatique du Hezbollah, et surtout l'affaire des Vipers. Parce que l'affaire des Vipers a quand même tué entre 100 et 150 dirigeants, et puis en a endommagé bien 300 ou 400. C'est-à-dire, et en plus, sur le plan psychologique, l'effet a été énorme. C'est-à-dire que chaque membre du Hezbollah craint maintenant, tant et si bien qu'on sait qu'il y a des Libanais qui se sont retirés du Hezbollah, des chiites, et que l'Iran, notamment, a été obligé d'être beaucoup plus présent. On a envoyé littéralement beaucoup plus de Pasdaran, puisque ce sont eux qui tiennent le Hezbollah, au Liban pour tenir le mouvement, parce qu'on sait que la population libanaise notamment se défiait, avait peur véritablement d'être visée. On sait notamment que lors des jours récents, les personnes qui ont été visées sont surtout des Iraniens. Par exemple, à Azmir, on n'a pas parlé dans la banlieue chrétienne, il y a un hôtel qui a été visé parce qu'un commandant iranien était présent. Voilà. On sait en effet. Alors le Hezbollah, à mon sens, sur le plan humain, est en recul. Là, Israël dit qu'ils ont tué 70 à 80 combattants du Hezbollah. Ils arrivent. Le problème pour Israël sera peut-être de les cerner, de fixer les combattants du Hezbollah. Par contre, la capacité de nuisance balistique, là, il y a des grandes questions, parce qu'il n'y a pas que les roquettes, il y a des missiles à longue
et des souterrains.
Des souterrains, notamment près de la frontière. Là, c'est pour ça qu'Israël rentre, notamment
tenu par
une des raisons pour lesquelles Israël rentre au sud, c'est notamment pour les détecter, les faire sauter, les neutraliser entièrement. Mais il y a la question des missiles. Le Hezbollah est tout à fait en capacité, par exemple, d'atteindre le complexe d'Haïfa, qui est le poumon économique et industriel d'Israël, et de causer des dommages très graves.
Mais les missiles, ils sont arrivés comment aux mains du Hezbollah? Ils n'ont pas été fabriqués à côté de Beyrouth. Hein.
Voilà. Retenez votre question, Jean-François Coulon. On va avoir tout de suite Emmanuel Razavi, juste après cela.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
On reste avec vous, François Costantini, mais nous avons en ligne Emmanuel Razavi. Vous êtes grand reporter, producteur et réalisateur de documentaires, essayiste. Vous avez signé avec Jean-Marie Montali La pieuvre de Téhéran. C'est une enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde, aux éditions du CERF. Et puis, vous publiez ces jours-ci Paris-Téhéran, le grand dévoilement, toujours aux éditions du CERF. Bonjour Emmanuel Razavi.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Je vous en prie, vous êtes le bienvenu, vous êtes un grand spécialiste de l'Iran. Et alors, première question, je voulais vous demander si la gauche est toujours aussi aveuglée qu'en 1979, la gauche française, au moment de la révolution iranienne, hein, puisque vous en parlez, je crois, dans votre livre.
Oui, c'est le thème de notre livre, voilà, avec Jean-Marie Montali.
Voilà, Michel Foucault considéré, je rappelle que Michel Foucault considérait Khomeini comme un saint. Hein, est-ce qu'on en est toujours là?
Alors écoutez, je vais revenir sur Michel Foucault. Michel Foucault avait effectivement écrit que Khomeini était un saint. Il avait comparé en fait à un saint. À l'époque d'ailleurs où Michel Foucault a écrit cela, Khomeini a écrit un livre que Michel Foucault n'a sans doute pas lu, dans lequel Khomeini explique qu'il faut tuer les homosexuels en les jetant du haut d'un immeuble, en leur ligotant, en ayant pris soin de leur ligoter en fait les mains, ou alors qu'il faut les décapiter à coups de sabre, ou alors qu'il faut les brûler vifs. Vous savez, c'est important d'entendre ça, parce que ces gens-là ont soutenu en fait Khomeini, qui a tué des dizaines, des centaines de milliers d'Iraniens, hein, depuis 47 ans. Le régime a été un régime qui a massacré sa population, Khomeini, enfin bref, ce régime islamiste. Les intellectuels de gauche, à l'époque, Sartre, Foucault, mais je parle aussi de journalistes, hein, comme Éric Rouleau notamment, n'ont pas eu peur, si vous voulez, de supporter, de cautionner un fou furieux qui était un islamiste. Alors certes, qui avait fait la jonction en fait avec l'extrême gauche, hein, pour faire sa révolution, la révolution iranienne, je le dis pour vos auditeurs, c'est une révolution qui a été portée par les islamistes et les communistes à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez
d'où l'aveuglement de la gauche française.
Ben, d'où l'aveuglement d'une partie de la gauche française, tout au moins, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens. Prenez les filles à la France insoumise. Moi, j'ai beaucoup enquêté avec Jean-Marie, en fait, sur la France insoumise. Il ne cesse, en fait, de prendre parti pour des gens qui sont liés, Salah Hamouri, par exemple, est membre, en fait, du bureau politique du FPLP. Le FPLP, c'est quoi? C'est une organisation palestinienne terroriste qui a participé au pogrom du 7 octobre 2023, en fait, contre les kibboutz en Israël. Et ça ne les gêne pas de donner des conférences avec lui, d'avoir des propos qui sont des propos carrément apologétiques d'ailleurs, hein, de ce qu'il a pu faire. C'est ce qu'on écrivait dans La pieuvre de Téhéran. Ce qu'on raconte aujourd'hui avec Jean-Marie dans le livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Le Grand Dévoilement, je vous remercie d'en parler, c'est comment en fait justement cette gauche continue encore aujourd'hui de parler à la place des Iraniens, de parler parfois sans savoir, mais surtout en instrumentalisant, si vous voulez, une idée révolutionnaire qui voudrait en fait que la République islamique d'Iran, vous savez, l'extrême gauche française, l'extrême gauche européenne, c'est une extrême gauche révolutionnaire. L'islamisme chiite iranien, c'est un islamisme révolutionnaire, il ne faut jamais l'oublier. Ouais. C'est très inspiré des frères musulmans.
C'est la révolution qui les rassemble, hein, parce qu'on pourrait en fait, se dire a priori qu'ils sont à des années-lumière.
Vous avez parfaitement, mais très bien dit les choses, c'est la révolution qui les rassemble. En fait, ils ont opéré, si vous voulez, leur rapprochement, leur convergence, sur l'idée révolutionnaire en partant du principe que peu importe qu'on ne soit pas d'accord, du moment en fait qu'on peut travailler ensemble à déstabiliser, à porter le chaos précisément dans les sociétés. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran, qui pourtant est fragilisée, se sert, si vous voulez, de ce rapprochement entre islamistes et extrême-gauche en Europe. Hein, c'est vrai en France, je parlais des Lefis, mais pas que. Vous avez aussi en fait en Espagne, en Italie, en Allemagne, il se produit les mêmes choses. En instrumentalisant évidemment la cause palestinienne, hein, Khomeini disait toujours il faut islamiser la cause palestinienne. C'est pour ça que vous retrouvez des barbus aux côtés des gens de LFI qui manifestent en fait pour Gaza. Pourquoi? Parce que l'Iran, la République islamique, s'en sert ensuite pour faire pression sur la France, sur les démocraties européennes, en leur disant soit vous courbez les chines, soit on est capable de porter le chaos chez vous, c'est-à-dire de fracturer votre société et peut-être même de porter la guerre civile chez vous. C'est ça le message. Et je vous le dis, puisqu'avec Jean-Marie Montalier, on a beaucoup travaillé sur les éléments de langage qui sont fabriqués à Téhéran par les services secrets iraniens, et sur les objectifs. On a interviewé hein, notamment des anciens espions hein, infiltrés qui avaient travaillé en Iran, mais aussi des gens du régime, y compris la diplomatie.
Alors, justement, Emmanuel Razavi, ça nous amène du passé à l'avenir, et puis j'ai plein de questions autour de moi. mais à l'avenir, est-ce qu'on peut envisager, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, hein, sérieusement, l'après-Mollah, est-ce que la population iranienne a été réduite à la passivité par la violence terrible qu'on a vue ces dernières semaines? Et puis, d'après ce qu'on sait de l'opinion iranienne, quelles solutions est-ce qu'on peut envisager? On parle beaucoup de l'Ariani, on parle du Shah, on parle de la dynastie précédente, hein, précédente à celle du Shah d'Iran. Est-ce qu'on peut envisager une république? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on va droit vers le chaos?
Alors, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que les oppositions en fait, iraniennes, que je connais bien, hein, puisque j'ai interviewé encore ce week-end là dans le Figaro Magazine, j'ai consacré 8 pages aux oppositions iraniennes. Vous avez aujourd'hui des oppositions iraniennes qui sont démocratiques, laïques, qu'elles soient, je dirais, libérales, de gauche, de droite, ou qu'elles soient ce qu'on appelle l'opposition ethnique, c'est-à-dire kurdes, il y a les kurdes en Iran, kurdes ou balouches, les balouches iraniens, les azéris iraniens. Donc tous ces gens-là quand même se parlent, si vous voulez, et les composantes, si vous voulez, de l'opposition iranienne, des oppositions iraniennes n'ont rien à voir avec ce que sont les opposants en Syrie ou en Irak, comme certains le racontent. Donc la sociologie est très différente, et ça c'est plutôt rassurant. Ce qu'il est peut-être moins, et vous avez eu raison, vous avez parlé à l'instant, et j'ai entendu de la possibilité peut-être d'installer un Larry Jani, en tout cas c'est ce que Trump, la CIA notamment, il y a quelques jours, émettait comme possibilité. Larry Jani, c'est un assassin, il a du sang sur les mains, c'est un gardien de la Révolution, c'est un homme issu du régime, ça veut dire que l'opération américaine ne sert strictement à rien. Avoir tué Ali Khamenei pour mettre Larry Jani, il avait été adoubé d'ailleurs avant la mort de Khamenei, vous voyez, par le guide suprême. Donc, ouais, ça n'a pas de sens.
C'est vraiment un équivalent.
Oui, oui, bien sûr, c'est un équivalent. Après, vous avez parlé donc de la dynastie des Pahlavi. J'ai interviewé pour le Figaro magazine Reza Pahlavi. Très clairement aujourd'hui, puis j'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises ces dernières années, il ne se présente pas du tout comme quelqu'un qui veut restaurer la monarchie, au contraire, il dit qu'il veut accompagner un gouvernement de transition, qui serait un gouvernement évidemment de coalition démocratique, laïque, c'est ce que disent l'ensemble des groupes d'opposition iraniens de toute façon, et qui serait, garant de la protection des minorités, d'une part ethnique bien sûr, mais aussi des minorités de genre. Alors pourquoi c'est important pour les Iraniens ? Parce que les homosexuels sont pendus en Iran, vous le savez, en tout cas en cours à minima la pendaison, que les minorités ethniques, mais y compris religieuses d'ailleurs, sont persécutées aussi, et qu'aujourd'hui, pour ramener la stabilité dans le pays, ramener un paysage, je dirais, sociologique qui soit un peu plus doux, si vous voulez, que celui qui existe aujourd'hui, ça passe exactement par ça. Moi, je crois, de tous les opposants que j'ai rencontrés, je pense que les oppositions, elles sont plutôt bien dans l'ensemble. Les oppositions iraniennes, je crois qu'aujourd'hui, Reza Pahlavi est celui qui est le plus connu, si vous voulez, qui est le plus demandé aussi en Iran, et surtout celui qui est le plus, comment dire, identifié des gouvernements ou des grandes démocraties, en tout cas occidentales, et ce qui permettrait de faciliter la reconstruction du pays. Il faut avoir quelqu'un qui sache parler, si vous voulez, au président américain comme au président français, et donc pas avoir quelqu'un qui sort du chapeau sans avoir les réseaux.
Donc vous croyez à l'hypothèse Pahlavi. Franck Herriot avait une question pour vous.
Oui, bonsoir Emmanuel Razavi. Quel rôle peuvent jouer les Kurdes iraniens dont on parle beaucoup en ce moment et qui pourraient pénétrer sur le sol iranien pour prêter main forte aux Israéliens, aux Américains ? Quel rôle pourraient-ils jouer ?
C'est une question qui me fait bien plaisir parce que j'aime beaucoup les Kurdes. J'ai passé une quinzaine de jours dans la montagne avec Alfred Yacobzadeh, le photographe iranien, avec les combattants kurdes du Komala, puis ceux du PDKI. C'est les deux grands mouvements kurdes au sein de la coalition, qui en regroupe d'autres, plus minoritaires. Aujourd'hui, les Kurdes sont armés. Ils combattent, vous savez, hier, je discutais avec le porte-parole du Komala. Le Komala, c'est le parti kurde iranien historique. Il me disait, nous avons payé le prix du sang depuis 1979. Donc, nous sommes prêts à nous battre au sein d'une coalition. En revanche, il faut qu'on ait la certitude d'être épaulé par les aviations israéliennes et américaines. L'idée, c'est de pénétrer, si vous voulez. Ces forces kurdes, elles sont basées en Irak, à la frontière iranienne. Et donc, ce serait en fait de traverser, de pénétrer, si vous voulez, de faire tomber la frontière iranienne, de rentrer en Iran, donc par le territoire irako-iranien, en étant appuyé par des bombardements, évidemment, donc américano-israéliens, mais aussi par les forces spéciales américaines et israéliennes qui sont dans la région, très clairement. Donc ça, si vous voulez, les Kurdes aujourd'hui, en plus, ils sont très bons en matière de renseignement. Il faut savoir que des Kurdes, il y en a dans tout l'Iran aujourd'hui, parce que les Kurdes font beaucoup d'études. Et donc, ce ne sont plus les Kurdes d'il y a 50 ans, vous voyez. Donc, ils font des études dans les facultés de toutes les grandes villes d'Iran. Très souvent, leurs enfants, une fois diplômés, intègrent des entreprises iraniennes, ce qui fait qu'ils ont établi un réseau de renseignement à travers tout le pays.
Et les Iraniens accepteraient ça, que les Turcs... Que les Kurdes, pardon, jouent un rôle dans le changement de régime.
Ah non, mais si vous voulez, les Kurdes aujourd'hui, quand vous discutez avec un Kurde du Komala, il vous dit « je suis Kurde », mais il vous dit aussi « je suis iranien ». Ça a changé, ils ne sont plus du tout séparatistes comme ils étaient. Il y a des minorités séparatistes qui existent, on ne peut pas le nier, mais elles sont, comme je viens de vous le dire, ce sont des minorités. Aujourd'hui, les grands partis, si vous voulez, comme le Komala, sont des mouvements qui considèrent que, dès que le régime sera tombé, il faut arrêter la lutte armée et il faut participer à un gouvernement. Ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, très clairement, c'est une autonomie, un particularisme culturel et une autonomie culturelle. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir avoir des universités dans lesquelles on peut suivre des cours en kurde, avoir des médias en langue kurde.
Certaine autonomie, mais pas l'indépendance.
Alors, les Kurdes iraniens, aujourd'hui, ça, ne le demandent plus, à part des organisations très minoritaires. Je le dis, c'est important, parce que j'ai vu la télévision sur une chaîne que je ne citerai pas, mais les Kurdes interviewés, qui étaient d'un groupe, effectivement, séparatiste, ils ne représentent quasiment rien. C'est, vous voyez, quand on montre ça, ce n'est pas de la désinformation, mais quand même, parce que ça existe, mais quand même, ce n'est pas tout à fait non plus, en fait, la généralité et donc la réalité.
À vous entendre, Emmanuel, il faut considérer les Kurdes iraniens, leur position très différente de celle des Kurdes syriens, qui ont des difficultés en ce moment.
Bien, alors,
et qui ont été lâchés par les Américains et par l'Occident.
Alors, les Kurdes iraniens du Komala, il faut savoir qu'ils ont combattu aussi aux côtés des Américains contre Daesh, notamment avec les Français, mais et qu'ils ont souvent été maltraités, hein, comme leurs, leurs compatriotes, si je puis dire, syriens. Cependant, il y a une différence sociologique. Comme je vous l'expliquais, c'est que les Kurdes, depuis longtemps, poussent leurs enfants à faire des études. Et que donc, le fait qu'ils fassent des études à travers tout l'Iran, ça induit une chose, c'est qu'ils se sont intégrés, je dirais, à la sociologie iranienne. Ce qui fait qu'ils ont une identité kurde qui est très forte, d'accord ? Ils parlent leur dialecte, notamment, mais dans le même temps, ils se considèrent aussi iraniens. Vous voyez, quand, par exemple, la révolution, Femmes, Vie, Liberté. Vous savez qu'il y a des marées en septembre 2022, après le meurtre de Mahsa Amini, qui avait été tuée par la police des mœurs iranienne parce qu'elle portait mal le voile. Cette jeune femme, elle était kurde. L'Iran tout entier s'est soulevé.
Oui, je comprends.
Après le décès de Mahsa Amini. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont vraiment une composante du pays. Et encore une fois, je ne nie pas qu'il y ait des séparatistes, mais ils sont très, très minoritaires. Et là, pour le coup, je peux vous en parler quand même, parce que je suis allé les voir, je les connais, très très bien les gens du Komala et du PDKI. Donc, ils sont vraiment dans autre chose. Il ne faudrait pas que Donald Trump leur donne des mauvaises idées, parce que hier ou avant-hier, quand même, dans l'entourage de Donald Trump, certains commençaient à parler d'un grand État kurde qui regroupait le Kurdistan iranien et le Kurdistan irakien.
La tentation peut surgir.
Il faut éviter quand même de jouer les pyromanes et d'aller sur des terrains que eux-mêmes, d'ailleurs, n'avaient pas en tête.
Emmanuel Razavi, je rappelle que vous êtes journaliste, vous publiez Paris Téhéran, le grand dévoilement au CERF. Jean-François Coulon, des Arts, avait une question pour vous.
Non, c'est pas une question, Emmanuel, c'est saluer juste pour moi Alfred Yacobzadeh, que j'aime beaucoup, qui est un photographe de grand talent.
Alors, c'était pas un message familial.
On est d'accord.
Voilà. Philippe Charlez.
Oui, moi, j'avais une question un peu plus générale. L'histoire montre en fait que l'Iran est un régime totalitaire actuellement et que les régimes totalitaires acculés vont souvent jusqu'au boutisme, si j'ose dire. Parce que derrière un régime totalitaire, il y a de l'idéologie, mais il y a aussi souvent beaucoup d'intérêts financiers et économiques. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que finalement, acculés comme ils sont aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, les mollahs sont prêts à aller jusqu'au boutisme, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution du dernier et jusqu'au dernier mètre carré, finalement, à défendre dans Téhéran? Ou au contraire, est-ce qu'ils seraient plutôt prêts à la négociation pour conserver en partie une partie de leurs intérêts?
C'est évidemment la question qui est dans toutes les têtes. Aujourd'hui, vous avez deux réalités au sein du régime. Je dirais même qu'il y a plusieurs réalités, y compris au sein de la mollarchie, si je puis dire. Vous avez des mollahs qui sont ce qu'on appelle les conservateurs. C'est une branche qui est issue de la révolution de 1979. Ils sont extrêmement durs, ils sont très idéologisés. Ils considèrent, ils le disent d'ailleurs, que c'est le moment de l'apocalypse qui est arrivé, donc le moment en fait du grand combat contre le mal qui est incarné sur Terre par l'Amérique et par Israël.
Donc cela,
ce que je vous dis là,
jusqu'au boutisme.
Donc ça, c'est jusqu'au boutisme. Et ce que je vous dis là, c'est enseigné d'ailleurs aux jeunes élèves officiers des gardiens de la Révolution. Cependant, vous avez aussi ce qu'on appelle une branche réformatrice. D'ailleurs, c'était des gens plutôt réformateurs qui négociaient en Oman, jusqu'à ce qu'il y ait les bombardements, avec les Américains. Ceux-là, ils sont plutôt en fait affairistes, ce sont des pragmatiques, ce sont plutôt d'ailleurs des clans mafieux même. Beaucoup d'entre eux sont impliqués dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, voilà. Eux, ils préféraient que ça s'arrête, ils préféreraient trouver une solution négociée avec l'Occident, et ils sont même prêts, si vous voulez, à avoir un régime un peu moins islamisé. Le problème, c'est que les Iraniens n'en veulent pas. Parce que ces gens-là, ils ont pillé l'Iran, ils ont ruiné l'Iran. Il y a bien sûr les sanctions internationales qui ont affaibli économiquement l'Iran, mais c'est surtout sur 47 ans, ils ont confisqué, je dirais, l'ensemble en fait de la rente pétrolière, gazière, l'ensemble du tissu économique. Avec les gardiens de la Révolution, ils ont la main mise sur près de 70% de l'économie iranienne.
Donc on comprend qu'en fait, la solution n'est pas évidente, entre
les pragmatiques et je vais dire les fous idéologues qui sont prêts à aller jusqu'au boutisme. Parce que si
en Iran, personne. Les Iraniens vous diront qu'ils ne veulent ni des uns ni des autres.
Oui, donc ils ne veulent ni des uns ni des autres, je comprends. Mais disons que la solution passe quand même par une solution intérieure, s'il n'y a pas de, de force au sol externe. Donc ce qui veut dire que, est-ce que finalement on peut arriver ou pas à quand même une négociation, ou au contraire ça va être, je vous dis, jusqu'au boutisme, voilà.
Vous savez, la négociation, de toute façon, même s'il y avait une négociation avec les réformateurs, ça ne marcherait pas. Vous auriez une guerre civile en Iran. Les Iraniens ne l'accepteraient pas. Okay. Ça n'arrêterait pas aujourd'hui les forces qui sont en marche. Donc aujourd'hui, la solution, vous l'avez dit, pour partie, elle se trouve à l'intérieur. Vous avez absolument raison. Oui, et aussi à l'extérieur. C'est-à-dire
c'est
qu'il
toute
y a
la difficulté.
Il faut unir l'ensemble. Mais ce qui est important, c'est que ces groupes d'opposition, ce que je raconte dans le Figaro, là, qui est sorti ce matin, le Figaro Magazine, c'est que ces groupes se parlent entre eux. C'est pas comme en Syrie ou en Irak où ils se font tous la guerre et s'entretuent. C'est que ces groupes d'opposition, ils ont en commun d'être laïcs, démocratiques et de se parler. Même quand ils s'apprécient pas beaucoup, c'est à l'iranienne, on se parle.
Donc on n'est pas à l'abri d'une alliance.
On peut aller vers une alliance, bien sûr, de l'ensemble. Mais ils ont tous envie de ça, globalement.
Est-ce qu'on peut imaginer, c'est une question très courte, que l'armée iranienne, non pas les Pazdaran, mais fasse défection et se mette du côté du peuple?
Vous avez encore une fois raison, ça fait partie des questions aujourd'hui qui sont dans toutes les têtes, c'est-à-dire que tout le monde attend en Iran que l'armée se positionne en faveur de l'opposition, enfin du peuple d'ailleurs tout simplement, ce qu'elle n'a pas fait pour le moment, parce que l'armée elle-même n'est pas sûre de l'issue, si vous voulez. L'armée, les cadres de l'armée ont toujours fait savoir par les réseaux de la résistance qu'ils ne se mettraient du côté de la population que s'ils étaient sûrs que le régime allait vraiment tomber. Et aujourd'hui, l'armée iranienne se méfie d'une chose, c'est que Donald Trump décide tout à coup d'arrêter les bombardements, comme il l'a fait du reste au mois de juin dernier, pendant la guerre des 12 jours, et que de fait, il y a une répression de masse derrière. C'est ce qui s'est passé, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre des 12 jours, elle s'est arrêtée du jour au lendemain, et c'est les Iraniens qui ont été persécutés. Vous avez eu des dizaines de milliers d'arrestations, des gens qui ont disparu, qui ont été exécutés, etc. Et donc, là, aujourd'hui, le régime est plus violent que jamais. On l'a vu les 8 et 9 janvier, hein, il a massacré au moins 35 000 personnes. Hein. Aujourd'hui, on en est certains, sans doute plus d'ailleurs, d'après les estimations des différents services de renseignement. Donc, l'armée se dit qu'on risque pas de... Pour autant, depuis quelques jours, il y a à nouveau des défections. Elles sont pas que dans l'armée. Il y en a aussi, je dirais, dans un certain nombre de corps de police. Vous en avez au sein des administrations, parce que les Iraniens... qui travaillent pour les entreprises d'État, très souvent ne sont plus payés. Et donc se disent qu'ils n'ont pas envie de continuer à servir un État qui est en train de massacrer sa population et qui, en plus, ne les fait plus vivre.
Emmanuel Razavi, merci infiniment pour cette analyse. Je recommande donc votre dernier livre qui vient juste de sortir, hein, hier ou avant-hier, c'est ça ? Paris-Téhéran, le grand dévoilement aux éditions du CERF. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'Iran. Merci d'avoir passé un moment avec
merci
nous
à vous.
Et de nous avoir éclairé. Hein. Voilà, et on retrouve notre invité, François Costantini, et tout notre tour de table, Jean-François Coulon-Désart, Franck Herriot et Philippe Charlèze.